Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Christelle, je souris en écoutant Laurent Wauquiez parce que chaque mot qu'il emploie, c'est une pierre dans le jardin de Xavier Bertrand. Non mais vous souriez, nous sommes d'accord. Vous l'avez bien.
La politique a repris ses droits.
Oui, vous l'avez bien. Alors il dit, j'ai appris, je veux évidemment que tout aille bien, mais chaque mot, je ne suis pas comme Xavier Bertrand. C'est exactement ce que tu entends. Alors ça, je trouve que ça s'appelle faire de la politique en prenant les gens pour des imbéciles, précisément. Vous voyez, puisque tout le monde décode de la même manière, mais personne ne le dira peut-être comme ça. Donc il dit une course de chevaux de bois. Sous-entendu, moi je ne suis pas un cheval de bois comme...
Je sens que vous êtes sur le point de l'imiter là.
Ah mais pas du tout, mais je trouve ça fascinant en fait. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose et le sous-texte c'est l'exact contraire de ce qu'il dit. Donc ça m'amuse. Bon, merci Christelle. Merci beaucoup, 13h03. Mathéo, bonjour, rebonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Bah merci à vous.
Mais pourquoi vous trouvez que la droite et la gauche de retour, en tout cas ce qu'on dit tous, Républicains et PS, pourquoi vous trouvez que c'est pas la bonne analyse?
Bah écoutez, je vais pas m'attaquer à la gauche, on tire pas sur une ambulance. Maintenant, pour la droite qui d'impression, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. En réalité, ils ont l'impression depuis hier d'avoir inventé l'eau chaude. Chacun se veut présidentiable. On a eu un spectacle assez pitoyable de la part de Xavier Bertrand hier. Je sais plus si c'est sur France 2, mais où il rentrait en campagne pour les présidentielles sitôt les régionales gagnées. Ils ont l'impression que leur victoire veut dire quelque chose. Leur victoire veut juste dire une seule chose. C'est que les gens s'en foutent. C'est-à-dire que les régionales, effectivement, c'est juste un jeu d'assises électorales, de baronnies qui sont installées depuis des années. Donc effectivement, pour les partis émergents du style LFI, Front National, LREM, c'est difficile. Mais ça veut rien dire pour la présidentielle. Il y en a un qui se frotte les mains de tout ça. C'est Emmanuel Macron. Parce que tous se veulent calife à la place du calife. Laurent Wauquiez, mais royal de pitoyable. Effectivement, comme
bah,
vous dites...
Il fait un bon score quand même.
Oui, mais...
Il a réussi, il a gagné. Donc ça, c'est même Pascal, assez remarquable comme il a gagné.
Je vous fais une confidence. N'importe qui se serait présenté au régional. Je fais une hypothèse. Hein. N'importe qui se serait présenté dans n'importe quelle région. Un mec populaire. Je parle par exemple d'un patron de club de foot, un gars qui a un réseau et qui est capable de mobiliser des mecs pour aller tracter et lister sur des marchés. Je vous assure que n'importe qui est élu au régional.
Là, non, c'est... vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Laurent Wauquiez, il fait 55,17% Union de la droite. Fabienne Grébert, Union de la gauche, fait 33,65%. Et le Rassemblement national fait Cotarac. Vous ne pouvez pas dire que n'importe qui a une notoriété vient en Auvergne et bat Monsieur Wauquiez.
Mais parce que simplement, ils viennent de partis qui sont historiquement implantés, qui a toujours des fédés, des réseaux de militants qui sont là pour
tracter. Mais c'était le dégagisme il y a 2 ans. On disait le contraire.
Oui, mais là c'est différent. C'est différent, Pascal. On parle de régional et de
départemental. Et on a viré des maires. Il y a 2 ans, oui, c'était l'exact contraire.
Mais non, mais Pascal.
Quoi, il y a 2 ans, il y a 1 an d'ailleurs, les maires.
Vous savez très bien ce que vous dites. Les municipales sont les élections qui intéressent le plus les Français avec les présidentielles. Les régionales, on s'en fout. Donc c'est à juste celui qui va rameuter le plus de personnes pour aller aux urnes. Et c'est tout. C'est pas du tout une question politique. Et ça n'a rien de politique, tout ça. Et ce qui est assez pitoyable, c'est qu'ils s'enorgueillissent de leur victoire, dont ils étaient absolument assurés. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez veulent tous être présidents, mais ils ne le seront jamais. J'y mets mes 2 mains à couper aujourd'hui, Pascal. Aucun.
Et vous pensez, par exemple, qui sera le prochain président de la République?
J'en parlais hier avec un ami à la suite des résultats. Et je me disais, soit il y a un mec qu'on ne connaît pas qui va émerger en septembre, un gars dont on a à peine connaissance du nom. Mais sinon, je pense que c'est Macron. J'y croyais très peu. Il y a une grande règle électorale qui dit, dans la 5e République, tous ceux qui sont donnés gagnants à 18 mois de l'élection finissent par perdre. Hein. Ça marche pour chaque
Il y a toujours des surprises. La preuve, ce scrutin, c'est une surprise. Personne n'imaginait que le Rassemblement national, dans un temps comme celui-là, soit aussi et autant en difficulté.
Pas du tout. Mais ça, c'est une fausse surprise. C'est organisé pour les... Ben non, mais bien sûr que oui, c'est les médias qui ont... Mais non, mais ça m'a fait rire.
Pourquoi c'est les médias ont... Qu'est-ce que les médias encore ont fait?
Mais c'est très bien. C'est en fait, tout est prétexte. Et Dieu sait que je suis pas un partisan du Front National, hein, du tout. Mais il fallait savoir. En gros, on a mis en gros une énorme attente sur le Front National au pont régional, alors que tout le monde savait objectivement que leurs assises locales sont très peu fortes.
Mais c'est Mathéo, pardonnez-moi. Par rapport à 2015, le Rassemblement National perd je ne sais combien de conseillers départementaux et régionaux.
Mais la faute à qui? La faute à Marine. Hein,
c'est autre chose. Mais ne dites pas qu'il n'y a pas d'assise, puisque l'assise, elle est moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2015. Non, mais c'est oui, une surprise quand même. Par exemple, M. Thierry Mariani fait moins qu'avait fait Marion Maréchal Le Pen.
Oui, mais ça, pour le coup, pour moi, le Front National, c'est encore un cas à part. C'est, pour moi, c'est la faute de Marine Le Pen, qui est très forte lorsqu'elle ne parle pas, mais dès qu'elle parle, se fait dégringole dans les sondages. Elle a abusé de sa parole, et donc, du coup, plus personne n'a envie de parler du Front National.
Ah bah c'est là, je peux... non, en tout cas, cette explication est possible. L'autre était plus délicate parce qu'elle venait contrarier les frais. En tout cas, les faits. Merci beaucoup, Mathéo. Vous êtes étudiant ?
Oui, c'est ça, étudiant.
Bon, vous avez voté hier ?
Eh bien non, Pascal. Par militantisme, je n'ai pas voté.
Ça veut dire quoi, par militantisme, vous n'avez pas voté ?
Bah parce que j'ai...
Aucune offre pour vous ?
Ben non, mais simplement parce que moi j'ai fait un peu de militantisme politique, j'ai été encarté, j'ai eu des responsabilités dans un parti et j'ai vu comment ça se goupillait. Et quand vous savez comment sont construites les listes, vous avez parfois forcément, même si un mec qui est censé représenter vos idées, vous savez que derrière c'est un tas de merde. Donc
dites pas ça parce que vous voyez ça participe. D'abord, je récuse le mot que vous avez employé qui est parfaitement incorrect et qui n'a pas sa place sur notre antenne. Première chose. Puis la deuxième chose, on peut pas généraliser et ça contribue à une forme de populisme. Si vous pensez que tous les hommes politiques c'est tous pourris que vous dites là, ça faut pas dire ça parce que il se trouve que moi, journaliste, je connais des hommes politiques, des gens engagés, de droite comme de gauche, qui ont un rapport avec leurs électeurs, qui se battent pour leurs électeurs, qui veulent faire avancer les choses. Et je le dis, on les trouve à droite comme à gauche. Donc ça, on peut pas dire ça.
Mais si vous avez été attentif, j'ai jamais dit l'inverse.
Vous avez dit un tas de... Non, ça, c'est pas bien.
Excusez-moi d'avoir employé ce mot-là, c'est juste que...
Bah oui.
Effectivement, c'est pas radiophonique et c'est pas respectueux.
Non, mais vis-à-vis d'un homme, on peut pas dire... On peut pas traiter un homme comme ça. On peut pas dire que les hommes politiques sont ça. Il est 13h09, on va marquer une première pause. Boris Pirédou est là, aujourd'hui. Et je le salue. Et voilà. Donc on l'écoutera après.
Bonjour Pascal.
Ah bonjour, je pensais que vous vouliez pas nous dire bonjour, non, ça me faisait de la peine. Il est 13h09, Laurent Tessier est là également, tout le monde est là. On parlera football parce que c'est pas gagné ce soir. Comme disait Aimé Jacquet, attention, grand danger. Je vous dis grand danger ce soir. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et bonjour Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question du jour et le sujet qui vous fait réagir au 32-10. Après les résultats de ces élections régionales départementales, le retour des partis traditionnels, les Républicains, le Parti Socialiste, Mathéo a été le premier à réagir au 32-10.
Je ne vais pas m'attaquer à la gauche, on ne tire pas sur une ambulance. Maintenant, pour la droite, ils ont l'impression depuis hier d'avoir inventé l'eau chaude. Chacun se veut présidentiable. Ils ont l'impression que leur victoire veut dire quelque chose. Leur victoire veut juste dire une seule chose. C'est que les gens s'en foutent.
Vos messages sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Après les résultats hier soir, nous dit José, j'ai eu l'impression d'assister à des meetings pour la présidentielle. Aucun retour, un an des partis traditionnels, lance Thierry. Seulement un électeur sur trois s'est déplacé. Il faut revenir sur terre. Pour Ignace, ce n'est pas un échec de La République En Marche ou du RN, c'est un échec de la démocratie et toutes ces alliances deviennent écœurantes. C'est le retour de rien du tout, conclut Grégory. On ne connaît pas les candidats. Il nous était difficile de faire le bilan des régions, donc on laisse les équipes en place. Point barre.
On pourrait également parler des sondages qui se sont bien trompés une nouvelle fois. La victoire de Muselier n'était pas attendue dans ses proportions. Et puis en Hauts-de-France, Xavier Bertrand gagne avec 52-37. Sébastien Chenu est à 25-65. C'est un rapport de 1 à 2. Franck est avec nous. Bonjour, qui habite Lyon. Et
bonjour,
justement,
Pascal.
Bonjour. Quel est le meilleur candidat, selon vous, pour les Républicains la saison prochaine ?
De loin, je pense. Celui qui a le plus de charisme, c'est Bertrand.
Mais comment peuvent-ils s'organiser selon vous, sachant que Xavier Bertrand a déjà refusé l'idée de la primaire, que Bruno Retailleau souhaite des primaires, parce qu'il y a Pécresse, Wauquiez, Bertrand, mais il y a également Bruno Retailleau et peut-être Michel Barnier, ce qui fait 5 candidats.
Alors moi, Bruno Retailleau, il ne me fait pas rêver. Vous parliez l'autre fois de quelqu'un, des écolos avec qui on n'a pas envie d'aller boire un café. Moi, je n'ai pas envie d'aller boire un café avec Bruno Retailleau, ni avec Michel Barnier, d'ailleurs.
Mais comment les départager ?
On n'est pas aux États-Unis, donc il n'y a pas de primaire. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de primaire. Pour moi, le candidat naturel, celui qui en impose le plus, qui dégage le plus de charisme, pour moi, c'est Xavier Bertrand.
Oui, mais ça, Laurent c'est votre Wauquiez, avis. Laurent Wauquiez, il ne pense pas comme ça. Qu'est-ce qui fait que Laurent Wauquiez n'y va pas, par exemple ?
Léger. je pense qu'il n'a pas, la carapace assez solide.
J'entends bien toujours, mais lui, il pense différemment. Comment alors, vous faites, parce que s'il y a deux candidats LR, on est d'accord que ce n'est pas une bonne chose pour les Républicains. Comment vous faites pour les départager?
Alors, comment je fais pour les... Alors, il faudrait qu'il y ait un petit débat. Il faudrait qu'ils se voient et qu'ils se disent, bon, si on ne veut pas repartir pour 5 ans de macronisme, ça serait bien qu'on accorde nos violons, qu'on s'entende et qu'on désigne un candidat. Voilà, vous qui êtes jeune, il a le temps d'être président. Il sera peut-être président dans 10 ans, je ne sais pas. Il a le temps, il est jeune.
Bah donc, écoutez, oui, voilà. Il est un petit peu plus jeune, effectivement, que Xavier Bertrand, mais ça ne va pas être après, simple, moi, quand même.
Je ne suis pas pro-Bertrand. Je suis pas pro-Bertrand, ou pro-Wauquiez, ou pro... mais pour les Républicains, il me semble que c'est le candidat qui en impose le plus. C'est celui qui... Voilà, il a l'expérience. Il était déjà là du temps de Sarkozy. Il a l'expérience. Je pense qu'il serait un bon président.
Bon, voilà. Laurent Wauquiez, il est de 1975. Donc, effectivement, Xavier Bertrand est un peu plus jeune. Et un peu plus vieux. Puisque Xavier Bertrand, je pense qu'il est de 1965.
Oui, il y a 10 ans d'écart. C'est
exactement.
Pas rien en politique. Hein.
Non,
en
mais vous avez parfaitement...
Ans, c'est pas rien. Et c'est important parce que là, on a un jeune, entre parenthèses, au pouvoir. Et on voit ce que ça donne. Donc, voilà.
Xavier Bertrand, il n'est pas vieux non plus, il est de 65.
Oui, non, mais on a un très jeune au pouvoir. Macron, c'est 77 ou... Ouais. Non, c'est même 60...
77, vous avez raison.
77.
Ouais. Donc, il n'avait pas 40 ans quand il a été élu.
Voilà. Donc, je ne suis pas certain que... On a tenté. On a tenté l'aventure Macron. Bon, je ne sais pas. Si c'était à refaire, je ne sais pas s'il y aura une majorité de la population qui le refera. Je ne suis pas sûr.
Ben, merci, Franck. C'est le retour peut-être des partis traditionnels. Peut-être également cherche-t-on le meilleur candidat pour chaque parti. Et c'est un peu notre conversation du déjeuner. Nous sommes avec Marie-Agnès. Bonjour, oui. Marie-Agnès.
Oh, bonjour, Pascal.
Quelle est votre analyse politique ce matin?
Alors, mon analyse politique. Moi, je suis absolument scandalisée que les gens n'aillent pas voter. Nos ancêtres se sont battus pour le droit de vote. Voilà. Bon, ça, c'est une chose. Moi, je pense que c'est un retour des partis. Parce que moi j'avais un dicton chez moi, chez mes grands-parents, on sait lire à droite ou à gauche et on gouverne au centre. On peut pas être, alors je vais avoir une expression vulgaire, le cul entre deux chaises. La REM, c'est ça. Donc moi je pense aussi qu'il y a eu une prime au sortant parce qu'on a vu les patrons de région qui sont là en tête et autres, comment ils ont géré la crise, entre autres Wauquiez. Moi, je pense aussi, si vous voulez, que on a juste quand les gens vous disaient qu'ils étaient pas au courant qu'il y avait une élection, il fallait vraiment être idiot, hein, ou pas vouloir. Ça, c'est une chose. Moi, je pense qu'on a très mal expliqué le rôle des régions et des départements, n'est-ce pas, le rôle, parce qu'il faut pas oublier aussi qu'il y a des cantonales et que dans les cantonales aussi, c'est important pour la région. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui raisonnent un peu en parisien en disant c'est pas ce que c'est et autres, mais en province c'est très important la région au conseil général. Mais c'est vrai que les gens ne sont pas allés voter. Pourquoi? Parce que on n'a pas montré l'enjeu, je pense, parce que voilà. J'étais un peu choquée par Mathéo. Je suis désolée. Il y en a entre 40 et 45 qui sont battus pour qu'on puisse en 47 voter. Hein. Donc moi, ne pas voter, c'est j'ai un de mes enfants qui n'a pas voté. Je peux vous dire que je lui fais la tête. Hein. Je lui fais la tête parce que je trouve ça inadmissible. Voilà. Mais je pense que c'est un retour aussi. Ce sont des gens. Alors pour les présidentielles, si vous voulez, ils sont tous là en train de se précipiter. LR. Moi j'ai un candidat, hein, je vais vous dire, c'est le petit jeune, c'est Wauquiez, parce que je trouve qu'il avait preuve de certaines maturités là dans la gestion de la crise Covid. De toute façon, ça sera un des trois. Hein. Je ne cache pas mes opinions. Je suis de droite. Mais je trouve, si vous voulez, que là, je suis choquée de fait par le collégien ne vote pas.
C'est oui, chose... j'ai bien compris. Mais par exemple, quand vous dites, c'est intéressant, vous dites, vous êtes de droite. Comment, et je repose la même question, comment vous imaginez départager les trois, et il y en aura peut-être encore une quatrième ou cinquième candidat, puisqu'on ne passe pas par la case primaire, a priori. Xavier Bertrand a dit, il n'y a pas de primaire. Donc si vous faites des primaires sans Xavier Bertrand, ça veut dire que vous allez avoir deux candidats républicains.
C'est ça qui m'embête. ça que je suis très embêtée. Mais il peut y avoir tout à l'heure vous avez cité quelqu'un, mais il peut y avoir aussi, parce qu'on dit qu'il s'y prépare et qu'il a quand même excessivement bien géré les négociations avec l'Angleterre et autres, c'est Michel Barnier qui a été un excellent président de conseil général quand il était en Haute-Savoie et autres.
Sans doute, mais convenez que ce matin, ce n'est pas le premier nom qui vient pour représenter la maison des LR.
On en parle. Et il prépare ses réseaux. Et si vous voulez, c'est là où je suis vraiment embêtée, parce que on a la droite la plus bête du monde, hein, comme disait De Gaulle. Je ne sais pas.
Vous avez raison d'ailleurs, je ne sais pas, et puis la meilleure réponse, puisqu'on ne sait pas comment ils vont pouvoir se départager.
C'est la machine à perdre, il faudrait peut-être quand même qu'ils arrêtent leurs égos et qu'ils s'entendent. Mais il ne faut pas oublier aussi, là, on parlait aussi des retours des partis, la défaite de Marine Le Pen. Est-ce que vous avez vu les résultats dans le Pas-de-Calais? C'est le Front National qui était en tête au cantonal. Dans le Pas-de-Calais. Alors que c'est eux qui ont battu, c'est là où voulait aller monsieur, rappelez-moi le nom du ministre de la Justice, qui voulait les chasser. Il faut regarder aussi les résultats au niveau des cantonales. Peut-être que les gens sont plus allés voter pour les cantonales que pour les régionales.
Ben merci Marie-Agnès de cette analyse. On marque une nouvelle pause, il est 13h20. Je rappelle qu'on a plein de sujets aujourd'hui. Il y a ce sujet effectivement qui a peut faire réagir cette femme qui avait laissé une pancarte sur le Tour de France et qui est à l'origine la chute des coureurs. Il y a une statue de Johnny Hallyday qui provoque la polémique à Paris. C'est un projet de sculpture qui doit être installé devant l'Accor Arena. Il entraîne la colère des élus écologistes du 12e arrondissement de Paris parce que l'œuvre comprend une énorme moto Harley-Davidson. Et la mairie dit au moment où nous voulons créer une ville durable, apaisée, le projet met surtout en scène une Harley Davidson qui symbolise tout autre chose. Je rappelle que c'est une sculpture, hein, c'est pas une vraie. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bruit et il n'y aura pas de pollution. Mais le simple fait, c'est aussi ça la cancel culture. C'est-à-dire qu'on veut faire, on veut rendre hommage à Johnny Hallyday, mais on peut lui mettre une clarinette, hein, si on veut. Mais il se trouve qu'il roulait en Harley Davidson. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs comme processus psychologique. Donc là, Harley Davidson, on aime bien Johnny, mais pas en Harley. Ça peut vous faire réagir, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson.
Finalement, alors c'est un sujet tout à fait anecdotique, hein, cette statue de Johnny Hallyday qui provoque la polémique à Paris parce qu'il serait représenté en Harley Davidson. Moi, je propose effectivement qu'il soit représenté sur une trottinette. Voilà, même si Johnny ne roulait pas en trottinette, mais au moins
de Greg Caradoni.
En trottinette, ça pourrait apaiser, en tout cas. Nos amis écologistes du 12e arrondissement. Laurent Tessier.
Et vous pouvez nous appeler évidemment pour réagir à cette actualité. Autre question, Emmanuel Macron doit-il se lancer dans une réforme des retraites avant la fin du quinquennat? Faut-il relever l'âge légal de départ à 64 ans? Aujourd'hui, il est à 62 ans. Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche, était l'invité de RTL ce matin.
Je suis favorable à ce que nous conduisions une réforme des retraites.
Mais c'est réforme des retraites que vous enclenchez avant la fin du quinquennat?
Ça, c'est ce qu'il faudra décider. Il n'y a pas eu d'arbitrage aujourd'hui sur le calendrier de cette réforme-là.
Une réforme des retraites avant la fin du quinquennat, pour ou contre, appelez-nous au 3210. Et puis du football ce soir.
Oui.
La France va-t-elle battre la Suisse en 8e de finale de l'Euro?
Attention.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Ah, je dis attention, comme disait Aimé Jacquet.
Oh,
attention, on pourra avoir Philippe Sansforge tout à l'heure.
On l'appelle.
Oui, on va l'appeler. Parce que attention, grand danger.
Vous faites une bonne imitation.
Grand danger.
Mbappé va-t-il marquer son premier but dans la compétition? Quel est votre pronostic? 3-1 pour la France, nous dit Fanfil sur la page Facebook. Attention, prévient Jacques, on peut avoir une mauvaise surprise, et vous l'avez dit Pascal. Et les Suisses, que disent-ils? Ils n'ont pas l'air très confiants.
Je vais regarder, mais je pense qu'on va se prendre une claque monstrueuse. Parce qu'on est mauvais, on est pathétique en foot. En ski, je dis pas, en tennis, en foot, mais en foot, on est lamentable. Si on gagne, je serais très content, mais je ne mettrai pas 2 francs dessus.
Clairement, ça se limite à ne pas en prendre 4. Je ne vois pas une meilleure performance.
Vous habitez en Suisse, appelez-nous pour démarrer le match ensemble, hein.
Bon, écoutez, finalement, moi j'ai toujours un peu peur, mais Philippe Sansforge nous dira ce qu'il en pense dans une seconde. Il était l'autre jour à Budapest, il faisait 37 degrés, il était en plein soleil avec l'ami Georges Rau. Là, on va voir si à Bucarest, la température est plus douce. Olivier, bonjour, qui habite Nancy, qui est commercial.
Bonjour Pascal, je suis ravi de vous entendre.
Eh bien moi aussi, figurez-vous.
Je voulais intervenir sur notamment ces élections parce que je vais vous dire une chose au lieu de... nos dirigeants, au lieu de faire passer du 49-3, notamment à gauche, comme ils savent le faire bien souvent, eh ben faisons passer un 49-3 sur le vote obligatoire déjà. Parce que je vais vous dire une chose, je trouve ça lamentable, comme votre auditrice précédente, je trouve ça lamentable que les gens ne se déplacent pas pour voter.
Eh oui, mais c'est une liberté, vous êtes marrant. C'est une liberté. Moi, je suis allé voter, mais il faut quand même être un peu tolérant. Si vous ne voulez pas voter, c'est votre droit.
Non, mais alors, dans ce cas-là, vous votez pas, ok, mais vous ne demandez pas de droit, parce que je veux dire, aujourd'hui, ou alors vous avez des gens qui vont pas voter, mais qui sont sans arrêt en train de critiquer le système, les lois qui sont votées, les choses qui sont décidées, non-stop. À un moment donné, on a un droit de vote, c'est un devoir d'aller voter. Je n'ai jamais loupé une élection, j'ai 52 ans, je n'ai jamais loupé une élection. Quoi.
Mais oui, parce que c'était notre. On était élevés comme ça, Olivier, moi je suis de votre génération, et effectivement, d'abord, on aimait aller voter, on aimait cette atmosphère de bureau de vote, mais je peux comprendre que des gens, et notamment les plus jeunes, ils s'expriment de manière différente. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans une manif, etc. Il n'y a plus que le droit de vote pour s'exprimer.
C'est vrai. Puis, la deuxième chose que je veux dire aussi, vous avez souvent dit, vous les médias, que notamment par rapport aux dernières élections, qu'il n'y avait plus de droite, il n'y avait plus de gauche. Et bien hier, on s'est aperçu qu'il y avait bien une droite et il y avait bien une gauche. Et moi qui suis quelqu'un de droite, je suis ravi de voir qu'il y a enfin cette droite qui est là. Il y a enfin cette gauche d'opposition qu'on a besoin, parce qu'on a besoin d'une opposition, donc voilà. Et ça, c'est parfait, c'est vraiment parfait.
Alors, on va marquer une pause, Olivier, puis on va en profiter pour essayer de sécuriser, comme on dit, votre ligne, parce qu'on ne vous entend pas 5 sur 5, j'ai envie de dire.
Okay.
Donc, il est 13h28, à tout de suite. Ah, le Tour de France. Le Tour de France après la pub, je ne savais pas qu'il y avait le Tour de France, comme pour Roland-Garros à 13h30. Qui est sur le Tour? C'est l'ami Christian? A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
RTL, Tour de France 2021.
Vous l'écoutez sur RTL généralement avec des informations de ce qu'on appelle les informations générales, mais je crois que c'est son premier Tour de France et il est sur la moto. Et d'une certaine manière, je vous envie, Mourad Djabari, parce que j'ai jamais eu la chance de faire le Tour de France. Donc vous découvrez ce tour peut-être. Bonjour.
Bonjour Pascal, et oui exactement, c'est un rêve d'enfant qui se réalise d'être sur la moto RTL et être sur les routes du Tour de France. Et donc on est sur cette troisième étape Pascal, 100% Morbihan, 182 km entre Lorient et Pontivy, sous un temps breton, des éclaircies mais on reçoit des gouttes en même temps. Le départ réel a été donné il y a 10 minutes, 5 coureurs échappés dont le maillot à pois Aïde Killing déjà à l'attaque ces derniers jours, 1 minute 30 d'avance. Alors on se demandait pour cette troisième étape si on aurait du monde sur le bord des routes après ce week-end où il y avait beaucoup de personnes. Eh bien les chaises pliantes, les bobs et les maillots à pois sont au rendez-vous, beaucoup d'enfants aussi. Le tour qui passe devant l'école, c'est forcément un événement. On a dépassé aussi un fan club avec énormément de personnes. C'est le groupe de supporters du coureur Warren Barguil. C'est le coureur du coin, le l'orienté, vainqueur de deux étapes et maillot à pois sur le tour, le grimpeur breton. Mais aujourd'hui, c'est une étape de plat, promis aux grosses cuisses, aux sprinteurs. On n'oublie pas non plus ce petit clin d'œil à l'histoire aujourd'hui. Le maillot jaune de la grande boucle est sur les épaules du petit-fils de Raymond Poulidor, Mathieu Van Der Poel. Prochain point sur la course, Pascal, à 14h.
Mais Mourad, quand même, avec ce qui s'était passé, cette spectatrice qui avait provoqué une énorme chute samedi avec sa pancarte, est-ce qu'il y a des consignes qui sont données au public de faire attention, de respecter tout simplement les coureurs?
Alors les consignes sont les mêmes et depuis toujours. Le Tour de France est un événement populaire où on vient sur le bord des routes, mais il faut faire attention, il faut rester sur le bas-côté. Et ces consignes sont données chaque année, évidemment.
Merci beaucoup, Mourad. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, vous utilisiez l'expression rêve d'enfant, mais c'est vrai que vous êtes sur une moto sur laquelle, jadis, on a pu entendre Guy Kédiard, Roger Zabel, Marc Menant dans les années 70, la moto d'RTL sur le Tour de France. Il y a quelque chose de mythique et de Madeleine de Proust, disons-le. Il est 13h33.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Est-ce que la liaison avec Olivier est meilleure qu'elle ne l'était avant la pub?
Je pense que oui, non?
Allez bien, voilà, oui. On vous entend parfaitement, Olivier. Bon, donc vous êtes plutôt, si j'ai bien compris, de droite?
Complètement, oui, j'ai jamais voté à gauche, moi, donc voilà. Et je ne voterai jamais à gauche.
Mais vous peut-être, on ne sait pas pourquoi.
Non,
Emmanuel Macron, il est de droite ou il est de gauche?
Je sais pas. Je vais vous dire, je pense qu'il est, il est là où ça l'arrange, mais je pense qu'il aurait eu plutôt une tendance à être vers la droite que vers la gauche, hein. Donc voilà, quoi. Bon. Malgré qu'il ait été ministre de Hollande, hein, mais.
Et quel voilà. est, quel serait pour vous le meilleur candidat pour terminer des Républicains?
Eh ben, certainement pas Xavier Bertrand. Alors c'est, si on prend, enfin, moi, je voterai pas pour Xavier Bertrand. Donc voilà, quoi. C'est.
Ah oui, mais alors là, vous êtes, ça, c'est terrible ce que vous dites, parce que oui. vous dites, vous êtes républicain. Il y a un moment, la discipline, de droite, même si c'est pas tout à fait le candidat auquel je dirais vous êtes, il y a une sensibilité qui vous pousse peut-être plus proche de celle de Wauquiez, c'est ça?
Ah non, pas du tout. Non, mais moi, si vous voulez, ce que j'entends, j'ai entendu Xavier Bertrand dire, moi, je ne veux pas passer par les primaires. Mmh. Ben, je suis désolé, dans un parti démocratique, on passe par une primaire quand il y a plusieurs candidats. Et
mais il n'y avait pas de primaire sous Sarkozy, il n'y avait pas de primaire sous Chirac, il n'y avait pas de primaire sous De Gaulle. Vous voyez, les primaires, c'est importé des États-Unis. On peut considérer que les primaires, c'est pas notre nos mœurs politiques.
D'accord, mais en même temps, ce que moi je vous dis, c'est que quand vous avez un candidat, parce que Bertrand, il veut pas de primaire, bon, ben, il y a quelques temps, il y a eu des primaires qui ont été instaurées, donc je réponds pas correctement à votre question, mais je vous donne mon opinion personnelle, c'est que quelqu'un qui veut pas aller aux primaires, ben, c'est quelqu'un qui veut pas aller débattre avec les autres, quoi. Donc,
ça peut être aussi, comment dire, Xavier Bertrand, il imagine peut-être les conséquences des primaires. C'est pas tant qu'il a peur de pas gagner, c'est peut-être qu'il sait que ça laisse des traces, parce que les gens s'affrontent, parce que c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Et puis, le vote des militants pour les primaires n'est pas toujours non plus le vote des Français, vous voyez ce que je veux dire?
Non mais complètement, mais c'est pareil aux dernières élections, ce que j'ai vu, et pourtant je peux vous dire aux dernières élections, j'étais derrière Bruno Le Maire, quelle fut pas ma stupéfaction de voir que Bruno Le Maire, qui avait tant critiqué Macron, quand Macron l'a appelé pour aller être ministre, il a couru comme un lapin, quoi. Donc à mon avis, il faut être sérieux, quoi.
Votre candidat idéal, c'est qui?
Moi, mon candidat idéal, j'en cherche un en ce moment, mais à la rigueur qu'on prenne le président, notre président aujourd'hui des Républicains. Donc,
Christian Jacob.
Ah oui, sans problème. Oui. Pour moi, parce que perdu, parce que j'y crois pas du tout avec Xavier Bertrand. C'est pas parce qu'on gagne une région qu'on va gagner la présidentielle. Mais moi, je veux pas de Xavier Bertrand, ça c'est sûr. Donc voilà.
Bon, bah écoutez, c'est votre avis et c'est pour ça que cette émission est intéressante.
Et puis la dernière chose que je voulais vous dire vite fait avant de vous laisser, c'est que je suis. Mais alors, si vous saviez ce que j'aurais voulu, mais exploser une bouteille de champagne hier soir pour la défaite de ces gens inconscients du RN, et même vous, les médias, vous dites même pas le RN, vous dites le FN. Alors là, vous voulez, dans l'humiliation pour eux, c'est parfait. Heureusement que les gens n'ont pas été votés comme les sondages le disaient. On avait l'impression que c'était la vague Marine Le Pen qui arrivait. Ben non, elle est pas arrivée. Et tant mieux, et bravo, et merci aux Français qui se sont déplacés pour voter. Voilà ce que je voulais vous dire.
Bah écoutez, merci beaucoup, Olivier. Vraiment, merci. On va marquer une nouvelle pause, peut-être, et puis on va être avec Maryse. Et puis, si on en a assez de parler politique, ben on pourra parler, je l'ai dit, de la Harley-Davidson, on pourra parler du brevet. S'il y a un jeune qui passe le brevet c'est 3e, hein, donc brevet c'est 14 ans. Vous vous souvenez peut-être de votre brevet? À l'époque, ça s'appelait le brevet des collèges, peut-être. Maintenant, c'est le brevet. Donc, appelez-nous. Et puis, si vous êtes des parents, si vous avez été inquiet, appelez-nous. Si vous avez amené votre enfant ce matin au lycée, appelez-nous. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
J'ai dit une bêtise, Laurent.
Eh oui.
Parce que je voulais qu'on contacte un collégien pour le brevet. Or, il est 13h40. Or, il y a des épreuves cet après-midi. Or, faut être à 14h, mais une demi-heure présent déjà. Dans la salle, en tout cas devant le lycée.
Donc personne ne va nous appeler.
Personne ne peut nous appeler. Et c'est tant mieux qu'il nous appelle, parce que celui qui nous appelle,
ça serait mauvais signe.
C'est mauvais signe, à mon avis. Donc, bon vent à tous ces collégiens. Jadis, moi, c'était le BEPC que j'ai passé.
Et puis vous pourrez nous appeler dans la semaine pour nous raconter comment se sont passées les épreuves. Nous vous attendons aussi au 3210 sur cette statue de Johnny Hallyday qui provoque la polémique à Paris. Un projet de sculpture doit être installé devant l'Accor Arena pour rendre hommage au rocker, mais il entraîne la colère des élus écologistes du 12e arrondissement de Paris parce que l'œuvre comprend une Harley Davidson. La maire du 12e se défend. Au moment où nous voulons créer une ville durable, apaisée, le projet met surtout en scène une Harley Davidson qui symbolise tout autre chose. Alors, êtes-vous choqué? Va-t-on beaucoup trop loin? Du grand n'importe quoi, écrit Bruno sur nos réseaux sociaux. Laissez Johnny tranquille, demande Bruno. Ils savent qu'elle ne va pas polluer cette moto, lance Véronique. C'est une sculpture. Qu'ils se calment tous, s'il vous plaît.
Le BEPC, en fait, ça s'est arrêté en 1981. Et en fait, c'est le diplôme national du brevet qui avait pris la place du brevet élémentaire. Le brevet d'études du premier cycle du second degré, il est créé en 47, c'est le BEPC. Avant, ça s'appelait tout simplement le brevet élémentaire. Et puis maintenant, ça a été le brevet des collèges et maintenant, c'est le brevet tout court. Ça change de nom, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi ça change de nom tous les 15 ans. Mais c'est comme ça. Maryse.
Oui, bonjour.
Bonjour Maryse, et on va parler avec vous encore politique. Vous êtes dans les Yvelines. Manifestement, dans les Yvelines, c'est la droite. Je crois qu'il y a eu 21 cantons qui. Les 21 cantons sont passés à droite dans les Yvelines.
Oui, tout à fait, effectivement. Alors, moi, ce n'est pas vraiment de politique, en fait, que je voudrais m'exprimer. C'est surtout par rapport à ce qui a été annoncé, c'est-à-dire l'augmentation de l'âge de la retraite.
Et la réforme possible, avec Alba Ventura ce matin, c'était évoqué, c'est-à-dire que ça pourrait être la dernière réforme du quinquennat.
C'est ça, tout à fait.
Et quel est votre sentiment ?
Alors, moi aujourd'hui, enfin, moi je suis chef d'entreprise et j'arrête pas d'entendre effectivement que voilà, le gouvernement, enfin, que ce soit celui actuel ou d'autres, veulent augmenter effectivement l'âge de la retraite. Moi je pense qu'il y a quand même d'autres réformes à faire. Moi en tant qu'employeur, je suis en recherche de salariés. Et aujourd'hui, le chômage explose. Et par contre, on n'arrive pas à embaucher. Donc je pense qu'il y aura peut-être déjà une réforme très importante à faire à ce niveau-là.
Ça veut dire quoi, vous êtes dans quelle activité, par exemple, Maryse ?
Moi, je suis dans les services à la personne. C'est-à-dire qu'en fait, on embauche des auxiliaires de vie, des aides ménagères, des jardiniers. Et j'ai aussi une petite activité de nettoyage industriel. Où là, actuellement, dans les Landes, on recherche à peu près 30 saisonniers. Et on ne trouve pas. Moi, je ne trouve pas
de ménagère. Vous ne travaillez pas de jardinier, par exemple ?
Les jardiniers. Alors, je viens effectivement là d'en trouver un, mais au bout de à peu près 6 mois de recherche. Et des auxiliaires de vie, des aides ménagères, nous n'en trouvons pas.
Parce que c'est des métiers rudes.
Il y a une pénurie.
Rudes.
Ce sont des métiers compliqués.
Toujours valorisants. Et c'est vrai que c'est dur.
C'est exactement ça. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a à peu près. Il y a pas loin de 4 millions de chômeurs. Qui, ben, pour l'instant, on les laisse. On ne veut pas toucher aux réformes chômage. Mais par contre, on va taper, effectivement, sur soit les retraités ou alors des gens qui travaillent et on va augmenter leur âge pour partir en retraite. Et moi, franchement, je trouve ça scandaleux.
C'est-à-dire que l'un n'exclut pas l'autre. On pourrait aussi augmenter l'âge de la retraite parce que on est le pays en Europe qui part le plus tôt.
Je suis tout à fait d'accord.
Et on a une caisse qui est en déficit.
Je suis d'accord aussi.
Et alors, la vie aujourd'hui est plus longue qu'elle ne l'était il y a 25 ou 30 ans.
Tout à fait.
C'est des arguments qui peuvent s'entendre.
Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le principe. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que lors du premier, je crois que c'est le premier confinement, les gens qui sont au RSA, on a augmenté leurs indemnités. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. Aujourd'hui, il y a à peu près 900 000 offres d'emploi non pourvues.
Oui, ça, alors ça, c'est effectivement...
On fasse déjà quelque chose là-dessus.
C'est très étonnant, ça. C'est très étonnant, vous avez raison, Maryse. Vous avez raison que ces offres, et notamment dans la restauration, on entend beaucoup à ce micro de gens qui disent, voilà, serveurs, placeurs, on propose des jobs et les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, ne veulent pas forcément répondre à ça. Parce que c'est
évidemment.
Des métiers aussi difficiles, avec des horaires qui sont compliqués. Merci Maryse de ce témoignage. Merci beaucoup. Donc pas de réforme pour vous des retraites tout de suite, on va attendre.
Je pense que d'abord ce serait la réforme du chômage à mettre en place.
Eh bien merci. Merci, vous avez vu que la réforme devait avoir lieu et puis elle a été retoquée par le Conseil.
Oui. Moi sincèrement je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. Mettons d'abord tous les gens qui ont la possibilité de travailler au travail et après on verra pour le reste. Parce que moi, je peux vous assurer que je fais régulièrement des interventions, ne serait-ce qu'au Pôle emploi, depuis des années, et je revois toujours les mêmes personnes au chômage, et ça tourne, et ils sont toujours là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Les caisses se vident, mais nous, on continue à payer, je trouve ça scandaleux. Il y a des sociétés qui ferment par manque de salariés. Moi, aujourd'hui, je refuse des contrats par manque de salariés. Je trouve tout juste ça scandaleux, et je ne suis pas la seule.
C'est le Conseil d'État qui a retoqué la réforme sur le chômage. Donc, pour le moment, il ne change pas. On va marquer une pause, on va parler de France-Suisse, grand danger. Grand danger, on est avec Nicolas Georgerot. Je me demande s'il est déjà au téléphone, Nicolas, avec nous. La semaine dernière, c'était... Ah, vous êtes là, ami ?
Et oui, je suis là, Amy, parfaitement.
Ah, mais vous étiez à Budapest l'autre jour, je craignais pour vous parce que vous aviez 37 degrés et Philippe Sansfourche était un peu inquiet. Vous étiez sous un parasol pendant que lui était en plein soleil en train de nous parler.
Mais il faut se mettre à l'abri, il faut se ménager. Mais tout va mieux à Bucarest.
Ah, il fait moins beau. Il fait quelle température ?
Ah là, il fait 29 degrés, il fera 26 au coup d'envoi tout à l'heure à 21.
Donc ça ira mieux. Bon, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
En Suisse, ce soir à 21h sur l'antenne d'RTL. À partir de 20h, ce sera Eric Silvestro avec Giovanni Castaldi, Philippe Sansfourche et Nicolas Georgerot pour le commentaire à 21h. Nicolas est avec nous en direct de Bucarest. Bonjour Nicolas. Pourquoi, Nicolas, ne sommes-nous pas vraiment sereins alors qu'a priori, sur le papier, la France devrait être favorite ?
Ben parce qu'il y a encore des choses à mettre en place. Là, ce soir, normalement, l'équipe de France va évoluer dans un troisième système de jeu en 4 matchs à l'Euro. Il n'y a pas encore cet élan, cette dynamique que l'on a pu voir dès le deuxième match lors de la Coupe du Monde en 2018. Et là, il y a encore pour Didier Deschamps et son staff des choses à trouver, à améliorer dans la fluidité du jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins de garanties, de certitudes qu'il y en avait eu à la Coupe du Monde très tôt, dès la phase de groupe.
Alors Nicolas, vous allez rester quelques secondes avec nous. Par exemple, Sarah est là. Bonjour Sarah. Et Sarah, vous êtes avec Nicolas Georgerot. Vous avez peut-être d'ailleurs une question à lui poser puisqu'il suit l'équipe de France au quotidien. Et peut-être avez-vous un avis à proposer sur cette rencontre?
Oui, j'ai un avis assez tranché d'ailleurs. Bonjour à tous d'abord. Simplement, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la façon dont joue l'équipe en entier. Là, à l'instant, la personne qui me précédait disait oui, c'est le troisième changement de type de jeu en 4 matchs. Mais il n'y a pas de type de jeu qu'on se retrouve systématiquement à avoir Pogba et Griezmann qui, dès qu'ils ont le ballon, repartent en arrière. Ils ralentissent le jeu à 1000%. Et on a Karim Benzema qui essaye de tout faire pour avoir un ballon. Et je ne sais même pas ce qui s'est passé, la passe lumineuse qu'a eu Pogba, une sur tout un match, sur 3 ou 4 matchs. Je ne suis pas certaine que ce soir, ça passe pour l'équipe de France. Et encore moins lorsqu'on en voit ce qu'on fait, par exemple, les Tchèques et les Autrichiens ce week-end. Ils ont carrément été vaillants, puisque la République tchèque est passée. Les Autrichiens n'étaient pas loin, hein, parce qu'il a fallu attendre 90 minutes avant qu'ils passent. Et honnêtement, pour les Français, heureusement qu'il y a Karim Benzema, mais malgré le fait qu'il soit là, je ne suis pas certaine qu'il puisse sauver l'équipe.
Mais vous êtes très sévère avec Pogba. Pourquoi vous trouvez que Pogba ralentit le jeu et donne des passes en arrière?
À chaque fois, je pense que je vais faire ce soir des statistiques. Hein. Systématiquement, quand il a le ballon repart à l'arrière.
Alors Nicolas Georgerot, qui est notre spécialiste, qui va commenter le match ce soir avec l'ami Philippe Sansfourche, vous répond précisément sur Pogba. Nicolas.
Oui, Pogba, c'est un petit peu sévère quand même, parce qu'effectivement, il a eu un match où il a été un petit peu en dedans, vraiment en dedans, c'était le match face à la Hongrie. Mais sinon, si on prend le match face à l'Allemagne pour ouvrir l'Euro, ensuite le match contre le Portugal, c'est quand même un des éléments moteurs de cette équipe de France au milieu de terrain, avec ce que l'on a vu, c'est-à-dire cette capacité à faire de longs transversales, à envoyer de longs ballons devant, mais aussi de savoir jouer court. C'est quelqu'un qui a quand même une relation aujourd'hui avec les trois attaquants qu'il y a en équipe de France. Après, c'est vrai que face à la Hongrie, c'est un match où il a eu du mal à enchaîner. Il a eu des difficultés, était retombé un petit peu dans ses travers, comme d'autres Français d'ailleurs sur cette rencontre-là. Mais Pogba n'est pas le joueur le plus en difficulté aujourd'hui en équipe de France.
Je ne suis pas d'accord, et la preuve en est, c'est que Kanté ne joue pas le même rôle qu'il a à Chelsea. On ne le voit pas, alors qu'il est excellentissime. Les meilleurs joueurs ne peuvent pas s'exprimer sur le terrain parce que le jeu n'est pas fait correctement. Griezmann, pareil, systématiquement la balle passe, repart en arrière. Vous penserez à moi ce soir, quand vous regarderez le match.
Vous trouvez que Kanté ne joue pas de la même manière en équipe de France qu'il joue à Chelsea?
Non, il doit pallier systématiquement. Ça n'est pas comment dire, c'est pas du tout le joueur qu'on
Nicolas,
peut voir.
Nicolas, vous partagez cette analyse?
En même temps, ça tombe bien, puisque c'est pas la même chose qu'on lui demande en équipe de France comme à Chelsea. À Chelsea, aujourd'hui, il a un rôle où il se projette un petit peu plus devant. On le voit proche de la surface de réparation. On l'a vu déclencher des actions décisives dans les 20-30 derniers mètres. Il a un rôle plus défensif en équipe de France.
Exactement, mais, pareil, on ne marque pas assez de buts parce que Kanté n'est pas à sa place et n'a pas le même rôle qu'à Chelsea. On a soi-disant un meneur de jeu qui n'en est
pas. Pour vous, faut virer Didier Deschamps, Sarah.
Non, pas du tout, pas du tout.
Ah bah, c'est l'entraîneur quand même, c'est le sélectionneur. Vous êtes dur en tout cas.
Ah non, pour moi, Pogba et Griezmann ne sont pas à leur place. Point à la ligne. Un meneur de jeu comme Griezmann, ça n'est pas un meneur de jeu.
Sarah, vous êtes amatrice de football depuis toujours?
Oui. Oui, oui. Et j'ai eu l'occasion de voir de très grands matchs, d'aller à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, d'aller à la Coupe d'Afrique il y a 2 ans en finale.
Et vous avez joué au foot peut-être ?
Comme ça, en amateur, je suis pas footballeuse, mais j'ai un des frères évidemment qui jouait. Et j'ai toujours suivi et j'ai filé le virus à mon fils.
Et je peux vous demander votre âge ? C'est pas indiscret ça ?
Oui, pas de souci, j'ai 45 ans.
Bon, et ce soir, vous regardez le match en famille ?
Oui, oui, bien sûr. On regarde tous les matchs de toute façon. Hein.
Mais vous êtes, programme de prévu.
Ah oui, oui, toujours. Oui, 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 oui. Bon, c'est une petite fête. Alors, une petite fête. On se réunit, on essaie d'être à plusieurs et on essaie de vivre les matchs dans la joie et la bonne humeur. Si déjà on peut pas y aller.
Donc vous allez peut-être regarder l'image et puis vous mettrez l'ambiance d'RTL, le commentaire d'RTL, peut-être.
Ouais. Ça m'est déjà arrivé.
Et comme ça, vous écouterez l'ami Georges Rau et l'ami Sansfourche. Bah, merci beaucoup, Sarah, parce que vous êtes passionnée, manifestement.
Oui, 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 mais je ne pense pas me tromper sans aucune prétention de ma part. Hein.
Non, mais vous êtes passionnée. Mais vous savez, on est tous, paraît-il, 66 millions
de sélectionneurs. On est
par
d'accord.
Définition, on est sur le foot, on est... Je ne vais pas dire qu'on n'a pas de doute, mais par définition, quand on pense quelque chose, ben oui, on met un peu d'enthousiasme et de passion et on a du mal à être convaincu par les arguments des autres. C'est ça,
après,
le foot.
Une petite parenthèse, Pascal, je regarde beaucoup plus l'équipe de France depuis que Karim Benzema est revenu, clairement.
Et pourquoi ?
Pardon ?
Et je dis, et pourquoi ?
Parce que je suis fan de ce joueur. J'avais eu la chance de le voir il y a très très longtemps, une fois en match de Champions League, quand il était encore à Lyon. Et il est brillantissime. Et c'est une honte qu'il n'ait pas pu jouer 5 ans, mais on ne va pas refaire le débat. Mais je regarde à nouveau.
En même temps, l'équipe de France a eu des très bons résultats sans lui. Mais là où vous avez raison, c'est que Karim Benzema est sans doute et restera dans l'histoire comme le meilleur avant-centre français de tous les temps. S'il n'a pas eu le ballon d'or, au contraire de Jean-Pierre Papin.
Mais Pascal, je ne veux pas monopoliser la parole, juste deux secondes. Vous savez, avec ce qui lui est arrivé, on lui a carrément construit. Dans 30-40 ans, on se rappellera de Karim Benzema. On se rappellera pas des autres. Par contre, lui, avec ce qui lui est arrivé, on est en train de créer une forme de légende.
Qu'est-ce que vous appelez ce qui lui est arrivé, ce qu'il a réussi dans sa carrière?
Avec tout ce qu'il a gagné et deux, ce qui lui est arrivé avec Deschamps en équipe de France.
Deschamps l'a sorti parce qu'il pensait qu'il n'avait pas sa place, point.
Non, on sait très bien tous les deux que ce n'est pas ça, on ne va pas revenir là-dessus.
L'équipe de France a été championne du monde, sans lui.
Oui, ils ont eu énormément de chance, honnêtement, énormément de chance.
Mais il faut toujours de la chance pour être championne du monde.
En 98, c'était aussi le cas, mais bon, c'est un autre débat. Mais on est en train d'en faire une légende.
Sarah passionnée, Sarah manifestement passionnée. C'est bien d'avoir des gens enthousiastes. Bon, Nicolas Georgereau est encore là ?
Oui, bien sûr.
Bon, ce soir, combien de personnes dans le stade ?
Alors ce soir, 25 000 à peu près, un petit peu moins, aux alentours de 24 000 précisément, puisque la jauge a été remontée à la fois par les autorités locales et par l'UEFA il y a quelques jours. Ce sera une jauge à 50% dans cette très belle Arena nationale de Bucarest, mais sinon c'était une jauge à un quart, à 25% avec 13 000 personnes.
Vous avez croisé des supporters français ?
Oui, alors quelques-uns, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'à Budapest parce que, ils n'ont pas pu s'organiser comme ils le souhaitaient à temps pour beaucoup pour venir à Bucarest avec tous les formulaires, les prix des billets aussi qui ont flambé pour les avions. Il y aura aux alentours de 1700 supporters français ce soir, mais ils étaient par exemple 7500 dans les tribunes de Budapest pour le match contre le Portugal.
Bon, cher Nicolas, on va vous laisser peut-être déjeuner. Qu'est-ce qu'on déjeune quel est le plat typique roumain que vous allez peut-être commander dans quelques minutes ?
Écoutez, je ne sais pas justement. Je vais aller voir la carte et puis si vous voulez, je vous tiendrai au courant.
Il y a beaucoup.
Je vais
on parle
beaucoup.
On parle très bien français à Bucarest. Hein. Il y a une tradition française, bien évidemment. Et puis peut-être une petite sieste cet après-midi. Nicolas pourrait être en forme ce soir.
Oui, peut-être. Si on a le temps. En tout cas, je sais que Philippe Sansfourche l'a prévu pour pouvoir être en pleine forme ce soir. Pour la prise d'antenne.
Bon, c'est un plaisir de vous écouter tous les deux parce qu'il y a de l'enthousiasme, il y a vraiment beaucoup de joie et de bonne humeur à vous écouter, d'expertise et de connaissances bien sûr, mais c'est un vrai plaisir d'avoir ce tandem qui roule avec Nicolas et Philippe pour le match ce soir, c'est à 21h. Hortense Crépin dans une seconde pour le Flash.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il est 14h. Le flash avec Hortense Crépin.
Un message de félicitations, celle d'Emmanuel Macron à Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle, réélu hier à la tête de la région Hauts-de-France. Les deux hommes se sont vus à Douai pour officialiser l'implantation d'une méga usine chinoise de batterie. L'abstention dit beaucoup de choses, on va en tirer les conséquences, a déclaré le chef de l'État. Deux électeurs sur trois ne se sont pas déplacés hier. Concernant le candidat qui portera les couleurs des Républicains l'an prochain, le patron des LR, Christian Jacob, déclare que personne ne gagnera en solitaire surtout une présidentielle. Gagner en solitaire, c'est peut-être ce qu'on verra par contre cet après-midi sur le Tour de France. On prend la direction des routes de la Grande Boucle.
RTL, Tour de France 2021.
Troisième étape, c'est toujours en Bretagne, entre Lorient et Pontivy. C'est un peloton avec Mathieu Van Der Poel en jaune qui a pris le départ de la course il y a un peu plus d'une demi-heure. Christian Olivier.
Exactement, bonjour à toutes et tous et bienvenue à Pontivy sur la ligne d'arrivée Lorient-Pontivy, au total 182 km, vous l'avez dit, étape 100% 56, Morbihan, les coureurs du Tour de France, la caravane qui lèche la presqu'île de Quiberon, la baie de Quiberon, le golfe du Morbihan avec des localités traversées, Carnac, Auray, Sainte-Anne-d'Auray, la Trinité-sur-Mer.
Bref, vous nous faites rêver, Christian.
Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Monsieur Olivier, vous me faites rêver.
Et on a vu il y a peu de temps l'île d'Ouate, mais on la voit de moins en moins car le temps n'est pas au rendez-vous. Attention aux averses qui vont tomber sur les.
Mais vous avez vu Wédic peut-être.
Wédic, bien sûr. Wédic, bien sûr. L'île de Wédic, l'île d'Ouate et un peu plus loin, Belle-Île en mer. Ses coureurs en tête sur la moto RTL sous la pluie avec deux Français, Morad Jabari.
Effectivement, deux Français de la BNB Hotel, Cyril Barthes et Maxime Chevalier, accompagnés du maillot à pois, le néerlandais Heide Killing de la Bora. Et vous le disiez, on est sous la pluie, sous une pluie battante maintenant depuis 10 minutes. Christian, elle va nous accompagner une bonne partie de l'étape, j'ai l'impression. En tout cas, c'est les prévisions. Il va falloir faire attention parce qu'il y a beaucoup de terre-plein central, de lignes blanches. C'est assez compliqué, et ça glisse beaucoup et il fait froid, évidemment, très froid pour les coureurs et pour nous aussi sur la moto.
Barthes et Chevalier, les Français, Charles Suisse, Wallez, le Belge, Skelling, le Néerlandais. Le mieux placé au classement général, c'est Chevalier à 8 minutes. Pas de danger donc pour le petit-fils de Raymond Poulidor, porteur du maillot jaune, vous le savez. Prochain rendez-vous RTL Tour de France à 14h30.
Merci Christian Olivier, merci Morad Jabari. Et puis en football, l'heure de vérité pour les Bleus, 8e de finale face à la Suisse pour l'Euro, c'est à 21h. Rendez-vous dans RTL Foot dès 20h. En cas de victoire, ce sera une place en quart pour affronter le gagnant de l'autre rencontre du jour. C'est à 18h, Croatie-Espagne. Match donc des quarts de finale qui se joueraient à Saint-Pétersbourg. Et cela malgré la hausse des cas de Covid dû au variant Delta en Russie. Hier, Saint-Pétersbourg a enregistré un record de morts depuis le début de la pandémie avec 110 décès en 24 heures. Le temps est 11 départements de l'Est désormais placés en vigilance orange aux orages. Un ciel mitigé avec des pluies entre la Bretagne et le Bordelais. De belles éclaircies sur le pourtour méditerranéen et un peu de soleil depuis les Pyrénées jusqu'au nord. Les températures cet après-midi entre 17 et 32 degrés. Les courses de Lyon-Paris, l'arrivée provisoire 6, 10, 11, 8 et 5. 14h et 3 minutes sur RTL et le retour des auditeurs ont la parole avec vous Pascal Pro.
Merci Hortense.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
On parle football bien évidemment parce que ce soir c'est France-Suisse. On est un poil inquiet, est-ce qu'on a raison? C'est peut-être une manière aussi de conjurer un peu le sort, de penser que ça peut être plus difficile qu'on ne le pense. Nous sommes avec Philippe qui habite les Yvelines. Bonjour Philippe.
Bonjour Pascal.
Quel est votre sentiment sur ce qui arrive?
Je suis un peu mitigé, moi, depuis le début de la compétition, en ce qui concerne les Bleus, parce que avant la compétition, la plupart des spécialistes footballistiques nous expliquaient que la France était la grandissime favori de l'Euro et que même pour certains, ça allait être une formalité. Et moi, je me rends compte qu'en fait, le meilleur ennemi de la France, c'est la France elle-même, en fait. Parce qu'elle... Moi, depuis que Deschamps est là, j'ai rien contre lui, quoi. Mais je trouve qu'on n'a pas de, fond de jeu, on n'a pas d'identité de jeu en fait. Avec Deschamps, je trouve que on gagne à l'italienne, quoi.
C'est toujours le même débat. Vous êtes marrant. On a gagné. On peut pas dire qu'il n'y a pas de fond de jeu. Il y a un jeu peut-être qui ne vous convient pas, qui est un jeu efficace, Ah oui, les champions du monde.
Ouais, on est champion du monde. Ok, on est champion du monde.
Et on est qualifié. Et on n'a pas perdu.
Bah oui, mais on n'a pas beaucoup gagné non plus. C'est le problème, c'est que contre l'Allemagne, on gagne 1-0 sur un but contre leur camp.
Et on a gagné.
Bah, je suis d'accord, oui, mais bon, quand on est amateur de foot, et je pense que c'est votre cas, on aime aussi le beau jeu. Si on pouvait avoir
les deux, ce serait parfait. Mais
bah oui, parce que moi je. Voilà, je trouve que déjà là, alors là, il y a un problème là, donc au niveau de l'effectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une armada d'attaquants, dont la plupart ne joueront pas une seule seconde, je pense. Et puis là, aujourd'hui, on se retrouve en pénurie de défenseurs, où on va devoir bricoler à gauche avec bien sûr Kimpembe qui va remplacer un latéral. J'ai des doutes, moi, sur. Je suis mitigé. Alors après, je sais que cette équipe, elle peut se sublimer. On a la qualité individuelle, on a les talents individuels pour se sublimer, pour faire en sorte que ce soit qu'une formalité contre les Suisses. Parce que après, on est largement supérieur aux Suisses, quoi. Puis on les a déjà torchés un paquet de fois dans le passé. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Mais c'est
on les a battus, c'est ce que vous voulez dire.
Ouais. Mais après, moi, je pense que c'est pour la suite de la compétition que j'ai un petit. Si on se qualifie ce soir, après, on va commencer à rentrer dans le dur de la compète. Et bon, alors, je suis français, supporter français.
Mais vous avez trouvé, par exemple, la Belgique, vous pensez que c'est meilleur que nous?
Alors, non. Alors, justement. J'allais vous poser la question. Vous avez vu une équipe sortir du lot depuis le début là?
Je suis d'accord avec vous. Je trouve que.
Et d'ailleurs, tout à l'heure au Standard, je parlais avec le jeune homme du Standard, et moi, je verrais bien une équipe surprise un peu cette année, peut-être.
Alors, vous disiez Kimpembe à gauche. La composition de l'équipe, c'est sans doute trois défenseurs: Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot au milieu, Griezmann, Benzema et Mbappé. Comment vous regardez le match ce soir, Philippe?
Je le regarde chez moi avec mon fils et ma femme.
Bon, bah écoutez, ça va être sympa, j'imagine. C'est traditionnel dans ces cas-là. Vous êtes tous les trois.
Non, c'est surtout moi. Moi, je rate aucun match de l'équipe de France, aucun match de foot en général. Je suis un grand fan de foot. Je suis tombé dedans tout petit par l'intermédiaire de mon frère, de mon père. On est tous passionnés de foot dans la famille et pour rien au monde, là, je raterai les matchs de l'équipe de France là jusqu'à la fin de l'Euro, quoi.
C'est drôle ce que vous dites, parce que le foot, on tombe dedans tout petit, comme vous dites, ou on ne tombe jamais dedans. C'est rare de découvrir le foot après 20 ans.
Au contraire, pour moi, quelqu'un qui n'aime pas le foot, il n'est pas normal. Hein, donc
Bon, vous, peut-être. Oui, mais souvent, c'est une transmission. C'était votre père.
C'est vrai.
Comme
c'est
vous
vrai,
l'avez
c'est
transmis vrai. À votre fils. C'est souvent,
ouais, moi,
souvent une transmission.
Parce que j'habite en région parisienne, mais mon père et mon frère sont des inconditionnels des Verts. Donc,
c'était leur génération, les Verts.
Mais j'aime ça. J'ai joué un peu au niveau amateur pendant plusieurs années.
Et vous jouiez à quel niveau?
J'ai joué en CFA2.
Attendez, CFA2, c'est un très bon niveau. C'est un très bon niveau. Pour jouer aujourd'hui au foot en CFA2, vous êtes un très bon footballeur. C'est ça la vérité.
C'était à une époque où des chefs comme moi pouvaient encore passer entre les mailles.
Non, je vous assure, ne vous sous-estimez pas. Même il y a 20 ans, jouer en CFA2, vous êtes dans le haut du panier des footballeurs. Il y a 2 millions de licenciés, des gens qui jouent en CFA2. À l'arrivée, il n'y en a pas des masses.
C'est sûr.
Merci. Un petit pronostic quand même, Philippe, pour terminer.
Je vois
vois quand même un 2-1 pour la France.
Ah oui, ça va être...
je vois un match dur quand même. Mais je pense qu'on est notre meilleur ennemi. Donc c'est à notre bon vouloir, en fait. Si les Bleus, si Mbappé ce soir, il décide de mettre la machine en route, s'il y a quelques joueurs qui font un peu de dépassement de fonction, je pense que quand même on devrait passer contre les Suisses. Quoi. C'est pas non plus...
Non, c'est pas, voilà, c'est pas le Brésil.
Voilà, il faut être logique.
Bah, merci.
Et puis, une dernière chose, Pascal. Oui. Je suis
Ah, je vous entends plus là. Allô ?
Je suis un grand fan de votre émission sur CNews. Et puis, continuez avec la bonne humeur parce que tous les soirs, je rigole énormément en regardant votre émission.
Et c'est gentil. Mais là, je le dis tous les jours, là, on est sur RTL et on essaye de rigoler aussi de temps en temps et en tout cas d'avoir de l'humeur. Merci, allez, Philippe.
Sur CNews, en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
L'ami Christian Olivier m'a envoyé, figurez-vous, une petite photo sur mon smartphone d'une galette avec une saucisse à l'intérieur, la fameuse galette saucisse. Et vous savez que Christian est breton. Donc on va l'appeler, Christian, dans une seconde, parce qu'il est évidemment sur le cyclisme, mais il aura peut-être un avis sur France-Suisse. On va terminer avec Didier, qui habite en Haute-Savoie, qui est chef d'entreprise. Et on conclura cette séquence avec l'ami Olivier. Didier !
Oui, bonjour, Pascal.
Didier, est-ce que vous avez peur comme nous ?
Bah écoutez, on ne peut pas dire qu'on peut avoir peur. Si on doit avoir peur de la Suisse, alors qu'est-ce qui va se passer après ? Maintenant, il faut respecter la Suisse parce que c'est une équipe organisée. C'est une bonne petite équipe, mais quand même, si on ne doit pas passer les Suisses, il faut partir en vacances.
Ben donc, oui.
Voilà. Non, je voulais répondre par rapport à vos auditeurs avant. Moi, j'étais sur place à Budapest contre le Portugal. Et alors là, une chose qu'il faut bien que les gens ne comprennent pas quand ils sont devant la télé, c'est qu'il fait 34 degrés à 21h. Et là, pour tous les amateurs de foot, jouer à 34 degrés dans une fournaise avec 60 000 personnes autour, je pense que c'est hors du commun. Il faut être un professionnel pour faire ça. Un amateur ne pourrait pas jouer à ce niveau. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que avec cette chaleur, c'est pas surhumain parce que c'est des pros, mais c'est très difficile de faire du jeu. Donc le spectacle qu'ils nous ont donné hier soir, l'autre soir, je pense que c'était l'un des meilleurs matchs qu'il y a eu de l'Euro jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait de l'intensité, il y avait du suspense, il y avait un peu tout. Alors bien sûr, Didier Deschamps, lui, il veut gagner. Hein. Donc on s'aperçoit très rapidement que si vous voulez gagner, il ne faut pas aller la faire au fusil. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas prendre moins de risques. Et on s'aperçoit que ça paye. Depuis des années, Didier Deschamps fait ses preuves de ça.
Donc, ce débat avec Didier Deschamps, il existe depuis que Didier, en fait, s'occupe de l'équipe de France, mais il existait également à Marseille. Didier, il a une vision nietzschéenne, si j'ose dire, du monde et du foot. Il faut gagner. Voilà, c'est Nietzsche.
Il faut
gagner, quoi qu'il arrive. Seule la victoire est belle. Après, on en pense ce qu'on en veut, la façon, etc. Je trouve que France-Allemagne était un très grand match, pour tout vous dire.
Aussi également, techniquement, tactiquement.
Voilà, exactement. Donc je trouve que moi, elle m'avait beaucoup plu. Après, il y a des petits soucis.
Oui, il y a des petits soucis. Il y a peut-être des gars qui ne sont pas au niveau qu'ils devraient être. Mais je vous dis, rappelons-nous quand même qu'il fait 34 degrés.
Je suis d'accord avec vous. Comment vous allez voir le match ce soir ?
Je vais le voir à la maison parce que quand je vois un match important comme ça, quand c'est l'équipe de France, je suis très tendu. Et j'aime bien être tout seul, comme si je participais sur le banc. Vous voyez ce que je veux dire,
Jérôme ? Non.
Ah si, ça me...
Tout seul, vous ne partagez pas ?
Je partage peu, ouais. Parce que quand je partage, je me dis que je ne participe pas à leur victoire. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et vous dînez avant ou vous dînez après ?
Ah, je vais dîner après ou peut-être pas dîner, vous savez. Ça dépend comment
ça tourne. À cause du match ?
Ah oui, je suis à fond maintenant.
Ah oui, effectivement.
Ouais, moi, j'étais déjà à Moscou quand ils ont gagné. J'ai été à Moscou. J'ai eu la chance de participer à voir la finale à Moscou. Et je disais à votre collègue, là, quand il m'a reçu tout à l'heure, à Moscou, il y avait beaucoup plus d'ambiance à Budapest qu'on a eu à Moscou. À Budapest, c'était de la folie.
Parce que vous y étiez à Budapest ?
Oui, j'étais à Budapest.
Ouais, vous y étiez.
C'était top. Et 34 en plus, les Portugais... Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que 50% des Portugais qui étaient à Budapest
sont français, étaient français. Ils avaient l'origine portugaise, mais bon, ils soutenaient leur équipe, puis en même temps, c'était bon enfant.
C'est ce que vous disiez, c'est pour ça que vous, qui étiez sur place, avec les 34 degrés, les gens ne s'en rendent pas compte lorsqu'ils sont devant la télé, bien évidemment. Et c'est pourquoi je me suis permis de le rappeler. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Didier. Vraiment, merci. Restez avec nous, parce que Christian Olivier, d'abord, est-ce que Christian, qu'on a entendu à 14h sur le Tour de France, est-ce que vous avez terminé votre galette saucisse, Christian Olivier? Parce que c'est lourd, la galette saucisse que vous m'avez envoyée.
Oui, quand je mets le nez dedans, j'en prendrai 3 ou 4 d'un coup.
Et vous en avez pris combien?
Je faisais les... une seule. Faut savoir raison garder, évidemment. Il y a quand même une étape à terminer.
Bon, c'est votre quantième Tour de France, ami.
35e.
Oh, ça... Et alors, vous êtes avec le jeune Morad Djabari, que vous initiez peut-être.
Non, c'est...
Et vous voyez peut-être personne, ses regards. Bah, si, parce qu'il ne connaît pas le peloton. Et peut-être c'est toujours intéressant d'être avec un journaliste qui découvre. C'est pour ça que c'est bien pour RTL d'avoir quelqu'un qui arrive avec du sang neuf et qui voit ce que vous ne voyez peut-être plus, vous, depuis 35 ans.
Oui, tout à fait. Ça permet justement dans la couverture sur RTL, dans la proposition des sujets pour le plus grand plaisir, je l'espère en tous les cas, des auditeurs de RTL, ça permet effectivement d'avoir, comme on dit dans le jargon, des angles un peu différents ou un peu nouveaux ou traités en tous les cas de façon plus originale ou originaux ces traitements. Si effectivement, vous, au bout de 35 Tours de France, vous vous dites que ça tout a été fait, eh bien non, on peut traiter cette actualité Tour de France et faire vivre le Tour de France pour les auditeurs de façon toujours plus originale et différente.
Et ce qui est drôle, c'est que quand vous avez commencé il y a 35 ans, peut-être que Raymond Poulidor finissait sa carrière, peut-être qu'il faisait encore un Tour de France.
Non, faut pas exagérer. Le premier Tour de France, 1983, ça a été la première victoire de Laurent Fignon.
Et en 83, il avait arrêté Poulidor.
Bien sûr.
Il n'y avait pas longtemps qu'il avait arrêté.
Il y a quelques années malgré tout. Peut-être que quelques critériums. Première année, Fignon 83. Deuxième année, 84, Fignon. 85, dernier tour de Bernard Hinault. 86, Lemon. Vous voyez, Poulidor n'était plus dans le peloton.
Et dites-moi, ce soir, vous allez regarder le match. Et vous avez laissé d'ailleurs le micro à Florian Gazan, dont refait le match samedi.
Je ne vais pas regarder le match, je vais écouter le match à la radio, cher Pascal.
Oui, vous allez l'écouter bien évidemment à la radio. Ah oui. Vous avez peut-être un avis, parce que j'ai l'impression qu'on est tous inquiets.
Écoutez, vous avez eu affaire aux spécialistes du foot et qui suivent l'équipe de France depuis pas mal de temps et en tous les cas sur cet Euro, donc je suis l'équipe de France à distance. Mais effectivement, alors certains pensent que ça peut être un match piège. Les Suisses sont apparemment aussi assez remontés sur la façon dont on les traite en France. J'ai vu ça et j'ai entendu ça également sur RTL de la même façon que les Belges. Ils se sentent un peu, non pas humiliés, mais on va dire, vexés.
Méprisés.
Traitement méprisé, voilà, que l'on donne à coup sûr l'équipe de France largement favorite. Donc attention évidemment à ces joueurs qui peuvent avoir dans un élan de révolte, qui peuvent effectivement tenter de créer la surprise. En même temps que je vous parlais, je regardais Raymond Poulidor. Non, vous voyez,
76. Je regardais. Oui, il participe à son dernier Tour de France et il était troisième à ce moment-là. Un petit pronostic pour ce soir?
3-0 pour l'équipe de France.
Ah bon? Bah merci Christian, merci, et puis on va vous écouter régulièrement sur Tour de France, et puis si on peut vous avoir aussi pendant nos émissions, s'il y a des incidents, des événements sur Tour de France, je pense.
Je peux vous donner une information, Pascal, d'ailleurs, il y a Geraint Thomas qui a remporté le Britannique le Tour en 2018, qui a sévèrement chuté. Il a repris son vélo apparemment, mais je ne sais pas s'il pourra aller jusqu'au bout, et puis il y a encore eu une chute sur une chaussée glissante car il pleut, le dénommé Kruiswijk, c'est un coureur néerlandais qui est arrivé troisième du Tour en 2019 et qui est un équipier, vous savez, de Roglic, deuxième l'année dernière, le Slovène, et bien lui, il va abandonner très certainement. Il y a beaucoup de chutes, hein, la chaussée, il pleut un peu, et quand ce ne sont pas les spectateurs qui parfois font preuve d'inconscience, et bien ce sont les conditions météo, effectivement.
On va parler de Johnny dans une seconde, puisque la mairie du 12e refuse l'idée d'une sculpture de Johnny avec sa Harley Davidson. J'ai proposé qu'il soit sur une trottinette. C'est pour nos amis écologistes du 12e arrondissement. Je ne sais pas si ma proposition sera retenue. Martine, dans une seconde, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson.
Une statue de Johnny Hallyday provoque la polémique à Paris. Un projet de sculpture doit être installé devant l'Accor Arena pour rendre hommage au rocker, mais il entraîne la colère des élus écologistes parce que l'œuvre comprend une énorme moto Harley Davidson. Nous sommes avec Martine qui habite Clermont-Ferrand. Votre avis, bonjour Martine.
Bonjour Monsieur Pro.
Oui, alors écoutez, franchement, cette histoire de ce pauvre Johnny sur sa Harley Davidson, mais moi, ça me fait rire quasiment, parce que le pauvre... voilà, c'était l'époque, et puis c'était les Harley. D'abord, ils vont mécontenter énormément de gens en faisant ça, parce que notre Johnny Hallyday fait quand même partie de la culture populaire, et la culture populaire est une culture qui est tout à fait valable, à mon avis. Hein. Et sans compter qu'un jour, on fera des Harley électriques. Bon, alors qu'est-ce qui nous embête avec la Harley de Johnny? Ils ont qu'à
l'aider. Il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre de la radicalité, qu'on retrouve d'ailleurs régulièrement chez les écologistes, qui étonne. Il y a d'autres combats, peut-être. Les arguments, au moment où nous voulons créer une ville durable, apaisée, le projet met surtout en scène une Harley Davidson qui symbolise tout autre chose.
Oui, mais c'est Johnny Hallyday. Je crois qu'on est tombé sur la tête, là.
Oui, bah, c'est grotesque. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est une des raisons peut-être pour lesquelles les écolos ont du mal entre le sapin à Bordeaux, le Tour de France à Lyon, l'aéroclub à Poitiers. Évidemment, le combat pour l'écologie, il est intéressant à mener, mais pas de cette manière-là. Je veux dire, c'est pas la sculpture de Harley Davidson. C'est ridicule. Et il donne une image d'eux-mêmes qui est effectivement...
Intolérante.
Vous avez raison, Martine. Intolérante. Oui, oui. Bon, écoutez, comme il est déjà 14h24, peut-être que Annie peut dire
Attendez, moi, je voulais vous dire autre chose.
Je vous en prie, Martine.
Cancel culture, attention. Hein. J'ai d'autres choses à vous dire au sujet de la cancel culture.
Allez-y,
alors. Moi, je trouve que la cancel culture, quand j'entends cancel culture, je sors mon revolver.
Oui, c'était Goebbels qui disait ça sous le mot culture.
C'est dangereux. La cancel culture, vous comprenez, on efface l'histoire, on détruit des œuvres, on écoute, il faut savoir que certains personnages de l'histoire que l'on veut effacer maintenant, au sujet d'une certaine cancel culture, d'abord cancel, oublier la culture, c'est pas mal, ça dit bien ce que ça veut dire, hein, on refuse les faits. On a tout un tas de personnages dans l'histoire qui ont fait des choses bien et des choses mauvaises en même temps, parce que personne n'est tout bon ou tout mauvais. Bon, là, il y a eu l'histoire, toute cette malheureuse histoire de l'esclavage et de la colonisation. Le problème, c'est qu'avec la cancel culture, petit à petit, on va oublier aussi ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de mal. Mais moi, je connais la nature humaine de par la profession que j'avais, et je vais vous dire ce qui va se passer. Pas tout de suite, mais ça va arriver. La nature humaine étant ce qu'elle est, eh ben on finira par recommencer, pas forcément sous la même forme, mais on finira par recommencer plein de vilaines choses, hein, tout simplement. Ce qu'il faut bien comprendre...
Je vous coupe, Martine, parce que c'est l'heure du débrief, malheureusement, et autrement, on va rendre en retard à Flavie Flamand, mais je vous propose peut-être de poursuivre cette conversation dès demain, si vous le souhaitez, sur la statue de Johnny, et pourquoi pas sur la cancel culture. Le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Après les résultats des élections régionales, départementales, est-ce le retour des partis traditionnels, les Républicains, le Parti Socialiste? L'analyse de Mathéo, 32-10.
Je ne vais pas m'attaquer à la gauche, on ne tire pas sur une ambulance. Maintenant, pour la droite, ils ont l'impression depuis hier d'avoir inventé l'eau chaude, chacun se veut présidentiable. Ils ont l'impression que leur victoire veut dire quelque chose. Leur victoire veut juste dire une seule chose, c'est que les gens s'en foutent.
Marie-Agnès a souhaité réagir sur le résultat de La République En Marche et elle a une définition bien à elle du parti.
Moi, j'avais un dicton chez moi, chez mes grands-parents. On se fait élire à droite ou à gauche et on gouverne au centre. On peut pas être, alors je vais avoir une expression vulgaire, le cul entre deux chaises. La REM, c'est ça.
Les premières punchlines sur La République En Marche et sur l'abstention. Un électeur sur trois s'est déplacé pour aller voter.
Quand les gens vous disaient qu'ils étaient pas au courant qu'il y avait une élection, il fallait vraiment être idiot. Hein.
Voilà, ça s'est fait, les Républicains, Marie-Agnès.
On a la droite la plus bête du monde, hein, comme disait De Gaulle.
Très bien. Bon, qui pour représenter la droite en 2022? Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, tous les trois ont gagné dans leur région avec des scores qui dépassent les 40% et chacun se lance dans un message d'unité et d'amour. Xavier Bertrand, ce matin.
On a de quoi former une bien belle équipe de France. Une bien belle équipe de France.
Des champions, Valérie Pécresse chez nos confrères de BFM.
On a fait émerger une très belle équipe de France, notamment dans les régions, pour la droite et le centre.
Mais il faut un capitaine.
Une très belle équipe de France, mais pas un homme providentiel aujourd'hui.
Bon, petit tacle glissé, puisqu'on parle d'équipe de France ce soir, mesdames, messieurs.
Pas de balle.
Oui, avec les huitièmes de finale de l'Euro. We are the people we've been waiting for. La France va-t-elle battre la Suisse? Un pronostic, cher Pascal.
C'est pas gagné ce soir. Comme disait Aimé Jacquet, attention, grand danger, Je vous dis grand danger ce soir.
Coup d'envoi à 21h, une rencontre à suivre sur RTL. Nicolas Georges Leroux était présent pour une interview d'avant-match pertinente.
Quel est le plat typique roumain que vous allez peut-être commander dans quelques minutes?
Écoutez, je ne sais pas justement. Je vais aller voir la carte et puis si vous voulez, je vous tiendrai au courant.
Bon, c'est vrai qu'il est plus que l'heure de se mettre... Et Pascal, là, je sens que vous avez très faim. Une question à Christian Olivier sur le Tour de France.
Est-ce que vous avez terminé votre galette saucisse, Christian Olivier? Parce que c'est lourd, galette saucisse que vous m'avez envoyée.
Oui, quand je mets le nez dedans, j'en prendrai 3 ou 4 d'un coup. Hein.
Ah ben, on est ravis de le savoir. Le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson préférée de Christian Olivier pendant son déjeuner.
Galette, j'en mange. C'est addictif, la galette.
Ah oui.
Flavie aussi. Dit, moi aussi, c'est addictif, dit-elle. Flavie, dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.